Bonjour docteur. Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté de nous accorder du temps pour cette interview. Pour vous présenter rapidement, vous êtes chirurgienne spécialisée en chirurgie cancérologique du sein, en chirurgie robotique et également en chirurgie gynécologique. Vous avez exercé à l'Institut Curie, puis à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et maintenant, vous travaillez au sein de l'équipe soignante de l'Institut français du sein, qui est un des centres experts en cancérologie mammaire les plus réputés. Au regard justement de votre expertise dans ce domaine, pouvez-vous nous dresser un panorama sur le cancer du sein actuellement en France?
Bonjour, merci pour cette interview. Alors, pour répondre à vos questions aujourd'hui, donc le cancer du sein est-il actuellement le cancer le plus fréquent chez les femmes? Oui, tout à fait. Une femme sur huit développera un cancer du sein au cours de sa vie. Actuellement, on sait que le cancer du sein est responsable de quasiment 60 000 nouveaux cas de cancer du sein par an en France. Le chiffre exact est quasiment 59 000. Et le cancer du sein est responsable de plus de 11 400 décès par an. Mais le cancer du sein, s'il est prévenu, s'il est traité suffisamment tôt, s'il est dépisté suffisamment tôt, on sait que le taux de survie à 5 ans, 80% de ces cancers du sein sont guéris lorsqu'ils sont dépistés suffisamment tôt. Donc un cancer qui reste de plutôt très bon pronostic. Est-ce que le chiffre est en croissance? Oui, quand on regarde les courbes épidémiologiques, on voit que entre 1990 et actuellement, les courbes montent et le taux a clairement augmenté. À quoi est-ce dû? Peut-être parce qu'on recense plus les cas de cancer, peut-être parce que maintenant on dépiste les cancers de plus en plus tôt. Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux, des facteurs de risque? Peut-être. En tout cas, oui, on voit qu'il est en croissance.
Et aujourd'hui, le cancer du sein fait l'objet d'une campagne de dépistage organisée qui s'adresse aux femmes de 50 ans et plus. Or, les chiffres communiqués par l'Institut national du cancer montrent que moins de la moitié des femmes éligibles participent à cette campagne. Quels sont, d'après vous, les freins à cette participation? Quels sont les leviers à actionner pour sensibiliser les femmes à l'importance d'un dépistage précoce?
Oui, en effet, en France, chaque patiente entre 50 et 74 ans reçoit à son domicile tous les 2 ans une convocation pour aller faire une mammographie pour le dépistage du cancer du sein. Et on s'est rendu compte que seulement une femme sur deux participait à ce programme de dépistage. Alors, les raisons, elles sont probablement multiples. On se rend compte que dans tout type de dépistage organisé, malheureusement, on n'arrive pas à atteindre toute la population. Pourquoi? Certaines, je pense, ne se sentent peut-être pas concernées. Certaines patientes ont peut-être peur de réaliser cet examen. Et certaines autres patientes n'ont pas toujours accès aux soins. Et on se rend compte que finalement, c'est souvent les patientes, il en est de même pour les frottis de dépistage pour le cancer du col de l'utérus, c'est la même chose. On se rend compte que finalement, les patientes qui accèdent à ce dépistage organisées sont aussi souvent les patientes qui effectuent déjà des suivis réguliers chez leur médecin, etc., des patientes qui sont déjà sensibilisées au dépistage. Donc il est vrai qu'il y a une tranche de population qu'il est difficile d'atteindre, et ça, quelle que soit la forme de dépistage. Et donc peut-être, dans ces cas-là, un meilleur, je pense, accès aux soins, peut-être plus d'informations grâce aux consultations avec les gynécologues ou les médecins traitants, mais malheureusement, on se rend compte qu'on essaye de cibler avec ce dépistage organisé des patientes qui ne vont pas voir régulièrement leur gynécologue, mais il y a toujours une tranche de patientes qui sont un peu difficiles à atteindre pour cela. Donc les leviers, peut-être on essaye plus de communication, des diffusions de spots et des campagnes de prévention, je pense.
Alors, il existe actuellement des solutions qui s'appuient sur la médecine prédictive et qui permettent de déterminer le profil de risque d'une femme de développer un cancer du sein, notamment dans les 5 années à venir. Elles permettent ainsi de cibler des femmes à risque qui n'entrent pourtant pas dans les critères d'âge de la campagne officielle. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de généraliser l'accès au dépistage organisé dès 40 ans ou qu'il soit plus efficace de cibler les femmes concernées grâce à la médecine prédictive?
La tranche d'âge du dépistage organisé de 50 à 74 ans a été une tranche d'âge qui a été déterminée en termes de politique de santé publique. C'est-à-dire que c'est la tranche d'âge où il y a le plus de patientes qui vont faire un cancer du sein et pour lequel donc le dépistage, on va cibler en fait le plus de patientes dans cette tranche d'âge. Et donc on a estimé que c'était en termes de santé publique la tranche d'âge qui était la plus intéressante et notamment en termes de coûts de santé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de cancer avant 50 ans et après 74 ans. Donc, quand on fait un dépistage avant 50 ans ou après 74 ans, on parle de dépistage dit individuel, soit parce que le médecin a prescrit un examen, soit parce qu'on a des facteurs de risque. Donc, je pense que l'accès au dépistage avant 40 ans et après 74 ans est extrêmement important. Et il est vrai que chez la tranche d'âge de patientes entre 40 et 50 ans, cette tranche d'âge est, à mon sens, très importante parce que beaucoup de patientes n'ont jamais fait de mammographie avant 50 ans et on se rend compte que quand même 20% des patientes ont un cancer du sein entre 40 et 50 ans. Donc, faut-il élargir le dépistage à partir de 40 ans? Peut-être. En termes de coûts de santé publique, c'est vrai que ce n'est pas la tranche d'âge qui a été retenue. Mais de plus en plus, en fonction des facteurs de risque propres des patientes, et en effet maintenant, grâce à l'arrivée de toutes les nouvelles médecines prédictives basées sur les gènes, donc des facteurs de risque propres à la patiente, des facteurs de risque génique propre à la patiente, ça me semble extrêmement important et intéressant de proposer aux patientes dès 40 ans de commencer à effectuer un dépistage par examen clinique, par des mammo-échographies. Souvent, la fréquence reste à déterminer. Donc, c'est vrai que l'aide parfois d'un test de médecine prédictive peut aider à déterminer cette fréquence de surveillance. Mais oui, ça me semble important que les patientes soient informées dès leur plus jeune âge. Certaines patientes font déjà des surveillances à partir de cet âge-là, voire même plus jeunes, parce qu'elles ont beaucoup d'antécédents dans la famille de cancer du sein. Mais ce n'est évidemment qu'un faible pourcentage des patientes. Donc, pour le reste de la population, soit plus de 80 autres % de la population, ça me semble important qu'elles soient informées, qu'il y ait des outils et des outils de dépistage et de prévention.
Et d'ailleurs, quels sont les principaux facteurs de risque d'un cancer du sein?
Les facteurs de risque de cancer du sein pour une patiente peuvent être son histoire familiale, son terrain génétique, mais essentiellement des facteurs de risque qui sont dits liés à l'hyperœstrogénie. L'hyperœstrogénie, c'est l'hyperproduction d'œstrogènes ou le fait qu'on amène plus d'œstrogènes à la patiente, que son corps produit. Ce qui veut dire que l'œstrogène est une hormone féminine, produite spontanément par le corps féminin. Donc, soit la patiente peut en produire un peu plus que prévu, parce qu'elle a des règles très tôt, une ménopause très tardive. On sait également que le fait d'allaiter peut être un facteur protecteur. Dans les facteurs propres à la patiente, il y a également la densité mammaire. C'est la densité mammaire et analysée lors de la mammographie. Une patiente qui a des seins très dense, très difficile à analyser en mammographie. On sait que ça peut être des facteurs de risque, jusqu'à 4 à 6 fois d'effectuer un cancer du sein sur une glande mammaire très remaniée. Et puis ensuite, des facteurs qu'on dit plutôt extrinsèques, des facteurs environnementaux de la patiente, à savoir l'ajout d'un traitement hormonal pris sur très long cours ou sur des très longues durées, ça peut être un facteur de risque. Alors, il n'y a pas de contre-indication, bien sûr, à une patiente si elle doit prendre un traitement hormonal, hein, on le dit toujours, mais il faut qu'elle soit surveillée et qu'on essaye de donner la dose minimale efficace sur le moins de temps possible, simplement pour soulager la patiente. La contraception hormonale, est-ce qu'elle est un facteur de risque? à très très faible, très très faible. Donc, bien évidemment, qu'il n'y a aucune contre-indication à prendre une contraception hormonale. Et puis, tout ce qui est consommation, consommation d'alcool, alimentation peut-être mal équilibrée, etc., on sait que ce sera des facteurs de risque.
Chaque année, durant le mois d'octobre, de nombreuses actions de sensibilisation et de prévention ont lieu dans toute la France et même dans le monde entier. En tant que professionnelle de santé spécialisée en oncologie mammaire, quelle importance revêt Octobre Rose en matière de prévention? Dans votre quotidien de médecin, ressentez-vous l'impact de cet événement qui est de plus en plus populaire?
Oui, c'est bien évidemment une très bonne chose d'avoir un mois entier consacré au cancer du sein. On en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de communication sur ce mois et c'est extrêmement bien. Je pense que justement, peut-être que cela peut aider à cibler la tranche de population dont on parlait tout à l'heure, de patientes qui peut-être ne se sentiraient pas concernées ou ne serait pas informé, n'ayant pas connaissance en fait de ces informations. Donc bien évidemment que c'est important de communiquer au maximum en termes de prévention, de communiquer bien évidemment pour des patientes également qui ont été malades. Mais c'est un mois qui est très important. Et je pense que oui, on voit hein, progressivement les effets de ces campagnes de prévention. Moi, lors de mes consultations, je vois beaucoup de jeunes femmes qui se sont pas dans les justement dans ces tranches de dépistage, mais qui viennent parce que elles ont palpé une boule dans le sein, elles ont palpé quelque chose qui les avait surpris et qui viennent aux consultations pour se faire examiner. Donc, si les campagnes peuvent permettre justement que les patientes s'interrogent, effectuent elles-mêmes des autopalpations, c'est-à-dire le fait de se palper soi-même les seins pour détecter si on a des lésions dans le sein, et puis ensuite viennent en consultation pour avoir l'avis d'un médecin, si évidemment que c'est fantastique, c'est le but principal, tant mieux.
Et quel conseil souhaitez-vous transmettre aux femmes qui écoutent cette interview et qui s'interrogent face au risque de développer un cancer du sein?
Eh bien, la prévention, le dépistage, commencer par soi-même à effectuer des autopalpations, consulter son gynécologue ou son médecin traitant une fois par an pour déjà commencer par un examen clinique, essayer d'identifier ses facteurs de risque personnels. Est-ce que il y a beaucoup d'antécédents de cancer du sein ou cancer de l'ovaire dans la famille? Est-ce qu'on a des facteurs de risque propres, à savoir peut-être une mauvaise hygiène de vie, l'apport de traitements hormonaux qui pourraient donner des facteurs de risque un peu plus importants, effectuer des cancers du sein et donc peut-être adapter la surveillance en fonction de ces facteurs de risque et puis ne pas hésiter à effectuer une mammo ou échographie, soit dans le cadre du dépistage organisé, soit prescrite par son médecin ou demander à son médecin de lui prescrire de manière assez régulière, une mammo-échographie, et puis ne pas hésiter, bien évidemment, à s'auto-examiner à la recherche peut-être de signes qui pourraient être inquiétants, un sein rouge, une déformation ou une boule palpée dans le sein, et ne pas hésiter à en parler à son médecin si on a le moindre doute, quel qu'il soit.
Merci beaucoup, docteur Delomini.
Merci à vous.